RFI, 10h30 ici à Paris, 8h30 en temps universel.
Sébastien Duhamel.
Bonjour à tous, c'est parti pour le dernier journal africain de votre matinale. Et à la une aujourd'hui, ce jour de vote en Mauritanie. Élection présidentielle avec 6 candidats face au président sortant qui brigue un deuxième mandat. On sera en ligne de Nouakchott dans quelques instants. En Guinée, la mort en détention de l'ex-chef d'état-major des armées, le colonel Sadiba Koulibaly, continue de faire réagir. Certaines voix s'interrogent sur la version officielle. Une affaire qui n'a peut-être pas dit son dernier mot, l'affaire Glencore, le géant des matières première, déjà condamnée pour corruption, mais la justice britannique souhaite désormais poursuivre certains de ses employés. Et puis le sort des 10 politiques maliens arrêtés il y a 10 jours. Ils ont été transférés de Bamako vers des prisons à l'intérieur du pays. Il y a donc 7 candidats en lice aujourd'hui en Mauritanie. Élection présidentielle pour laquelle un peu plus d'1 900 000 électeurs sont appelés aux urnes. Les bureaux de vote étaient censés ouvrir à 9h, heure locale, 7h en temps universel. Alors, sans plus tarder, on appelle notre envoyé spécial à Nouakchott. Bonjour Léa Lisa Vesterov.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Vous êtes dans le quartier périphérique et populaire de Sebra. Les bureaux de vote où vous vous trouvez ont ouvert il y a une demi-heure maintenant. Est-ce qu'il y a du monde déjà, Léa Lisa ?
Eh bien, les bureaux de vote ont ouvert depuis un peu plus d'une heure hein, et ça avance plutôt doucement ici, les opérations de vote dans l'école primaire Mokhtar Hamidou, je me trouve. Pour le moment, les files s'allongent, un peu plus de 250 personnes sont là dans cette cour sablonneuse, car il faut plusieurs minutes au président du bureau de vote pour vérifier la carte d'identité, la présence du nom de l'électeur sur la liste. Beaucoup n'ont pas reçu leur carte d'électeur et la récupèrent ici par la même occasion, ce qui ralentit le processus. Mais pour le moment, tout le monde prend son mal en patience, en double file indienne devant chaque bureau. Les femmes d'un côté, vêtues de leur grand voile traditionnel et coloré, la melafa, les hommes de l'autre. Nous sommes pressés d'exercer notre droit de vote, me disait l'un d'entre eux, car c'est un jour important pour la Mauritanie. Ici, 4 salles de classe ont été transformées en bureau de vote avec un peu plus de 2000 inscrits. Une fois son nom trouvé sur la liste, l'électeur reçoit un bulletin unique format A5 avec la liste des 7 candidats, leurs photos et leurs symboles dessus. Chaque électeur doit ensuite cocher la case correspondant à son candidat, le tout derrière un rideau vert tendu dans le fond de la classe. Le bulletin est ensuite glissé, plié en 4 dans l'urne transparente, le doigt trempé dans l'encrier. Enfin, dernière remarque, dans les 4 bureaux de vote ici, les représentants de 4 candidats sur 7 sont arrivés, celui du président sortant, mais aussi celui du parti islamiste Tawassoul, un représentant aussi du candidat Biram Dahabed, arrivé deuxième en 2019, et enfin Outouma Soumaré, professeur en neurochirurgie et nouveau venu sur la scène politique mauritanienne, est représenté pour surveiller le bon déroulement du vote. Il y a aussi un observateur de la société civile ici, pas d'observateurs internationaux par contre, Sébastien.
Léa Lisa Vesterov en direct de Nouakchott pour cette élection présidentielle aujourd'hui. Un scrutin dont on reparlera bien sûr dans la journée sur RFI. Une mort en détention et beaucoup de questions en Guinée après le décès samedi dernier de l'ex-chef d'état-major des armées, le colonel Sadiba Koulibaly, qui avait été condamné 8 jours plus tôt à 5 ans de prison ferme pour désertion et détention illégale d'armes. Selon le rapport d'autopsie, le colonel est décédé des suites d'un arrêt cardiaque qui pourrait, je cite, être imputable à un psychotraumatisme et à un stress prolongé. Fin de citation. Mais de son côté, Mohamed Tall, le directeur de cabinet du président de l'UFR, pointe encore de nombreuses zones d'ombre. Je vous propose de l'écouter, Mohamed Tall.
Sa mort reste très, très mystérieuse, même si, à la lecture du communiqué du parquet militaire, on peut imaginer qu'il a dû succomber aux tortures qui lui ont été infligées. Et de nombreuses interrogations subsistent, qui entourent donc les circonstances de sa mort. Aucune communication officielle n'a indiqué son lieu de détention. Ensuite, l'annonce de sa mort a été faite le 25 juin, alors que selon le communiqué, il a trouvé la mort le 22. Pourquoi ce décalage ? Et il faudrait enfin élucider et éclairer l'opinion un peu sur ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a entraîné la mort du général ? Sa mort va très probablement ouvrir une page de doute, d'insécurité et peut-être même d'instabilité pour le pays, ce qu'on ne souhaite pas. Ça donne raison à ceux qui estiment que les militaires ne sont pas faits pour diriger un pays.
Mohamed Tal, contacté par Pierre Firsion. Les suites à présent de la tentaculaire affaire Glencore, un scandale à grande échelle pour lequel le géant des matières premières a été condamné en 2022 par les justices américaines et britanniques. La multinationale avait alors reconnu la corruption massive de hauts fonctionnaires africains durant des années et elle a écopé pour cela d'amendes records. Désormais, Amélie Tullet, à Londres, l'équivalent du parquet financier souhaite poursuivre plusieurs employés de Glencore.
Après l'entreprise, les individus. Le Serious Fraud Office du Royaume-Uni espère annoncer prochainement une série d'accusations contre d'anciens salariés de Glencore. L'autorité judiciaire britannique, spécialisée dans la lutte contre la fraude, la corruption et les pots de vin de haut niveau, a adressé courant juin un courrier à la procureure générale à Londres pour demander son accord et pouvoir ensuite porter plainte contre les individus soupçonnés d'avoir participé aux pratiques de corruption reconnues par la société Glencore. Une perspective qui doit en faire paniquer plus d'un au Cameroun, commente l'ancien bâtonnier Akere Mouna.
Si on commence maintenant le procès contre les individus à Londres, c'est forcément on va demander, mais vous avez donné à qui ? C'est très probable que, n'est-ce pas, les noms sortent.
Des noms et des sanctions au Cameroun, c'est ce pourquoi milite Akere Mouna. Il a déposé 3 plaintes auprès des juridictions où se trouvent les sièges de Glencore Cameroun, de la Société Nationale de Raffinage Sonara et de la Société Nationale des Hydrocarbures SNH, sans qu'il y ait de suite à ce jour. Au Cameroun, selon le Serious Fraud Office du Royaume-Uni, entre 2012 et 2015, plus de 13 millions de dollars en espèces transportés périodiquement à bord de jets privés ont été utilisés pour corrompre les responsables des sociétés pétrolière et gazière du pays.
L'affaire Glencore, Amélie Tullet, qui concerne aussi plusieurs autres pays sur le continent, la RDC, le Nigeria ou bien encore le Soudan du Sud. Pour en savoir un petit peu plus sur ce dossier, des articles complets sont à retrouver en ligne sur RFI.fr. Les déboires de Samuel Eto'o. Après le bras de fer médiatisé avec le ministère camerounais des Sports, le patron de la FECAFOOT, le patron de la Fédération de football, est visé par des accusations de matchs truqués. Des accusations qui pourraient entraîner une suspension à vie de toute activité liée au football. Alors cette semaine, mardi et mercredi au Caire précisément, en Égypte, Samuel Eto'o s'est défendu. Il a plaidé non coupable devant le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football. Un dossier dont on a parlé ce matin avec notre invité, maître Florian Mbayen, avocat camerounais, qui était aux côtés de Samuel Eto'o justement cette semaine au Caire. Invité de Christophe Boisbouvier à retrouver sur Internet. Au Mali, 9 jours maintenant qu'ils ont été arrêtés avant d'être inculpés et placés sous mandat de dépôt 4 jours plus tard. Ce sont les 10 dirigeants politiques membres de la déclaration du 31 mars qui rassemble la quasi-totalité des partis politiques maliens mobilisés pour le retour à l'ordre constitutionnel. Et ils ne sont plus à la maison d'arrêt de Bamako, ces dirigeants politiques accusés d'opposition à l'exercice de l'autorité légitime, David Baché. Ils ont été transférés ces derniers jours dans des prisons à l'intérieur du pays.
Ils sont 3 dans la prison de Kenyiroba, à une 60aine de kilomètres au sud de Bamako. 3 autres à Koulikoro, une 60aine de kilomètres au nord. Les 4 derniers ont été transférés à Dioïla, 160 kilomètres à l'est de la capitale. Anciens ministres, hauts dirigeants de partis politiques maliens, ils resteront détenus et séparés donc jusqu'à la fin de la procédure qui les vise. C'est pour les empêcher de communiquer et ça complique les visites, explique l'un de leurs avocats. Mais sur le plan légal, c'est normal. Vu le surpeuplement des prisons, c'est quand même mieux comme ça. En avril, les autorités maliennes de transition ont suspendu les activités politiques dans tout le pays, invoquant l'ordre public. La défense juge cette interdiction contraire à la Constitution et conteste la légalité des conditions d'arrestation des 10 opposants. Actuellement, les personnalités politiques opposées aux autorités de transition pèsent chacune de leurs paroles ou se murent dans le silence par peur de la répression. Ceux qui prônent le plus ouvertement la désobéissance civile se sont résolus à l'exil ou à la clandestinité. L'ancien ministre Ousseini Amiongindo est quant à lui caché au Mali. Il ne faut pas compter sur l'oppresseur pour satisfaire les demandes de l'oppressé, déclare-t-il dans un message diffusé sur les réseaux sociaux avant d'appeler à résister.
David Baché, un mot également sur le Sénégal. Et toujours pas de déclaration de politique générale du Premier ministre. L'Assemblée nationale attend toujours, plus de 3 mois après sa nomination. Mais dans une communication parue hier, le Premier ministre justifie ce retard par des incohérences dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Le rôle de Premier ministre, je vous le rappelle, qui avait été supprimé en 2019 par Macky Sall avant d'être rétabli en 2021. Le règlement n'a pas été mis à jour depuis. Un mot également sur cette économie qui se porte bien. L'économie ivoirienne qui affiche un taux de croissance de 6% en 2023. C'est ce que révèle le 4e rapport de la Banque mondiale sur la situation économique du pays. RFI, 10h40 ici à Paris. Restez avec nous, bien sûr. Excellente journée à tous.